grains de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur 102.2 Radio Canu. Alors aujourd'hui, c'est une émission consacrée à tous ces traités sur les investissements que peuvent être le CETA, le TAFTA, donc ces noms barbares, pour évoquer ces traités entre l'Union européenne et le Canada d'une part, et l'Union européenne et les États-Unis d'autre part. Donc pour ça, on a invité le collectif Stop TAFTA. Donc on est avec François et normalement Robert qui devrait nous rejoindre. Donc bonjour.
Bonsoir.
Donc déjà, je vous propose de vous présenter, de présenter le collectif, donc un peu son origine, qui en fait partie, puis ses modes d'action et ses initiatives.
Eh bien, avec grand plaisir. Donc le collectif Stop TAFTA s'est créé il y a maintenant presque un peu plus de 3 ans, on va dire. En 2013, le mandat de négociation a fuité sur Internet et a été diffusé par le site assez connu qui s'appelle La Quadrature du Net.
Donc ce qui veut dire, si on dit quelque chose a fuité, c'est que c'était déjà en route.
C'était en route depuis en fait un petit moment, même depuis très longtemps, depuis un certain nombre d'années. Nous, bien sûr, on a découvert ce mandat de négociation. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce traité? Pourquoi on cache un traité économique? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Donc un groupe de citoyens, de façon très informelle, s'est réuni et a décidé de creuser ce mandat de négociation, savoir pourquoi il nous cachait des choses, pourquoi un traité qui paraît normalement positif, fait pour augmenter la croissance, fait pour faire baisser le chômage, pourquoi on cache
oui,
ça?
Oui, puis ça correspond à un accord entre des parties, donc normalement c'est...
Voilà, puis bon, on connaît nos hommes politiques, ils ne sont pas les derniers pour se vanter quand ils font quelque chose de bien, donc pourquoi cacher un accord qui pourrait être bon? Donc on s'est quand même posé la question, donc on s'est rassemblés, donc on est venu tout horizon, il y avait de simples citoyens, il y avait des gens qui venaient des syndicats, des partis politiques, des associations écologistes, bref, et en plus d'à peu près tous les bords, même s'il y a bien évidemment un biais très à gauche, mais assez classique dans la mobilisation, et donc on s'est rassemblés et on s'est donné pour mission de décrypter ces traités, de les comprendre déjà premièrement.
Donc, des gens d'horizons différents, mais rassemblés par des inquiétudes qui pouvaient être environnementales d'un côté, sociales ou liées à l'emploi de l'autre.
Sociales, économiques, etc. Mmh. Et donc, on s'est donné pour mission de décrypter ces traités, de comprendre, voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon à l'intérieur, et de donner l'information. Surtout si elle était mauvaise, parce que si elle est mauvaise, évidemment, il faut informer les gens. Si elle est bonne, bon, ok, on les laisse faire, on ne comprend pas la méthode, mais on laisse faire. Bien évidemment, il s'est avéré assez rapidement que le contenu de ces traités était assez dangereux pour nous, que ce soit tant au plan du travail, de la démocratie ou de l'environnement.
Et justement, comme on dit que c'était quand même caché, vous avez pu décrypter quoi? Vous aviez quand même des éléments...
Alors, fort heureusement, bien tangible. Évidemment, on a eu des éléments tangibles. On a eu le premier grand exemple de traité multilatéral qui est assez proche du TAFTA, qui était l'ALENA, signé en 1994 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.
Oui, il y avait déjà des précédents.
Voilà, traité qui a donné lieu à beaucoup de catastrophes, oui. Même si, encore une fois, c'est très particulier. Le PIB des pays a augmenté, mais quand on regarde dans le détail, ça fait augmenter aussi le chômage. En fait, ce sont des traités qui creusent les inégalités, surtout. Il y a une petite minorité de vainqueurs et une grande majorité de perdants. On a eu ensuite l'AMI en 98 en France, qui a été repoussée de justesse. On a eu ACTA en 2012, qui a été repoussée de justesse grâce à une mobilisation express. Et donc, on a découvert ce TAFTA. Et par la suite, en s'informant sur le TAFTA, on a découvert qu'il y avait aussi donc le CETA, qui était en fait fini de négocier quand on l'a découvert.
Qui était beaucoup plus avancé.
Qui était, voilà, il était en fait terminé. Il manquait plus que la signature. Et donc, on est tombé un peu des nues. Lui, il était déjà tout prêt. Il y a le TISA qui arrive derrière, le traité sur les services, et plein d'autres traités, en fait, en cours de négociation. L'Europe en négocie plusieurs dizaines en même temps. Mais pas tous du même modèle. On va dire que ce modèle assez global, ces traités globaux, qui englobent des points économiques, mais aussi des points comment dire, qui concerne le droit du travail, l'environnement. Ça, par contre, c'est une nouveauté.
D'accord. Et donc, vous disiez décrypter, donc vous en avez tiré quoi? Vos modes d'action, c'est voilà, des publications de...
Alors, on se base bien sûr sur le travail de certains journalistes, de certains experts, qu'ils soient diffusés dans la presse ou non. On a bien sûr notre propre réseau d'experts. On a bien évidemment des gens à la Commission européenne. Il y a quand même des personnes qui sont inquiètes et qui sont à la Commission, que ce soit du côté des députés ou des assistants parlementaires. Donc on a quand même des sources. Et donc on a essayé de croiser les sources de façon à expliquer, enfin à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc une de nos premières sources a été Raoul-Marc Génard, l'économiste qui a travaillé beaucoup à la Commission européenne.
Oui, qui avait aussi travaillé sur le traité européen.
Tout à fait. Donc voilà, en prenant l'information de partout, on a réussi à faire une synthèse qu'on affine d'ailleurs à chaque fois, parce qu'on a aussi certains articles, on se base dessus, on donne une information, on s'aperçoit que l'article n'était pas bien sourcé, donc l'information n'est pas toujours juste. Bref, on essaye d'être le plus juste possible, et on donne l'info. Mais maintenant, on a quand même une assez bonne vue sur le TAFTA, le CETA, etc. Le TISA, on a plus de mal, mais pour le TAFTA et le CETA, on les a quand même bien cadrés.
Et donc l'info qui passe, vous avez un site internet.
Tout à fait.
Vous organisez des conférences, vous êtes invité à intervenir.
Exactement. On a la chance à Lyon d'avoir le collectif Stop TAFTA le plus jeune de France, très connecté, très moderne. Donc on a un joli site où pas mal d'infos circulent. On a un collectif relativement actif, même s'il y a des périodes relativement difficiles, comme actuellement, où l'actualité s'est tellement accélérée que ça a été très difficile de suivre. Et bien, parfois aussi, on manque de monde. Il y a des périodes où c'est plus difficile.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez moins d'activité parce que c'est une période de silence? Et non, ce n'est pas le cas, c'est plutôt le contraire.
Alors, c'est à la fois une période de silence et de cacophonie. C'est-à-dire que c'est une énorme... Alors, on n'a jamais autant parlé du CETA.
On en a parlé, mais il s'est apparu.
Voilà, il est apparu.
Tu disais que c'était ancien, tout d'un coup, on l'a découvert grâce au Wallon d'ailleurs.
Exactement. Donc on a découvert grâce au Wallon, ce que nous savions, nous, c'est à savoir que ce traité existe, il est prêt, et il ne fallait plus que le ratifier. Donc nous, ça fait déjà quelques mois qu'on bataille pour essayer de faire en sorte que ce traité ne passe pas, essayer de donner l'information, mais c'est très compliqué. C'est difficile de faire des mobilisations dans la longueur sur des sujets aussi difficiles que ceci.
Aussi complexes et qui ne sont pas forcément relayés par les médias, entre guillemets, dominants, classiques.
Ah, les médias mainstream ont un peu de mal avec ces sujets un peu profonds. Donc, on a quelques sources quand même. Il y a un très bon blog sur l'édition électronique du Monde, le blog transatlantique de Maxime Vodano, qui est assez intéressant. C'est partie des seuls médias un peu grand public où on peut se trouver de l'information.
Donc, on reviendra sur les Wallons. Et justement, est-ce que votre collectif ou d'autres collectifs mobilisés contre ces traités sont en réseau et notamment en dehors de la France?
Oui, bien sûr. Les collectifs. Alors déjà, les collectifs Stop TAFTA sont fédérés en France. Tous les deux mois à peu près, on a des réunions entre nous. On a bien évidemment été fédérer les autres collectifs européens, en particulier grâce à ATTAC, qui a permis de fédérer un peu tout le monde en Europe.
Et on voit des différences justement sur les préoccupations.
Tout à fait.
Et
même, je vais donc aller plus loin, c'est qu'on a aussi contact, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a contact aussi avec des gens qui s'opposent à ce type de traité ultra-libéraux aux États-Unis, en Asie, vu qu'il y a aussi des opposants un peu partout, et en Afrique dernièrement. Donc voilà, donc on s'est relativement large, effectivement, mais oui, les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes, suivant dans quel pays on se trouve. Alors ça a été assez caricatural sur le début, ces différences se sont un peu aplanies avec le temps, mais par exemple, quand on parlait du traité transatlantique il y a 3 ans, c'était assez amusant de voir qu'en France, les sujets qui concernaient notre alimentation étaient effectivement majeurs, alors que nos amis allemands étaient plutôt du côté... du droit du travail, ou les Anglais du droit de l'environnement. Donc on avait chacun notre petite spécialité. Mais ça s'aplanit assez vite, ça.
Oui, puis ça, ouais, ça a permis de se rassembler et après d'échanger.
Tout à fait.
Et de prendre en compte d'autres considérations.
Exactement.
Donc est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu justement sur les Wallons, donc sur la décision, et est-ce que ça a vraiment changé quelque chose à ce traité qui était déjà bouclé en phase, il devait être signé le lendemain, je crois
Oui, alors ça a été un petit peu particulier. Donc en fait, l'épisode Wallon, il commence en réalité en 2015. En octobre 2015, le Parlement Wallon, qui a fait son travail, c'est assez rare, il faut quand même le souligner, un Parlement national, enfin pas national, dans ce cas-là régional, a fait son travail, il a épluché le traité. Ils ont épluché collectivement le traité en disant « ben là, il y a des choses bien, puis là, il y a des choses pas bien ». Ils ont donc envoyé une série de questions à l'Union européenne en disant, ben voilà, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va. Il faut changer ce qui va pas, sinon on peut pas signer en l'état. L'Europe n'a rien dit. Il y a une commissaire européenne qui est passée, qui leur a fait un petit discours de 10 minutes en leur disant, n'ayez aucune inquiétude, c'est super, faut signer. Aucune réponse à leurs questions. Et arrive le moment de la signature, octobre 2016, et les Wallons ont dit, ben, on n'a jamais eu de réponse à nos questions, donc non, on ne signe pas. Et donc là, le début du psychodrame européen, les Wallons ne veulent pas signer, et toute la déferlante médiatique qui a suivi, où les pauvres Wallons ont été qualifiés de villages gaulois, d'entêtés, voire même de radicalisés, les pauvres. Comment 3 millions de Wallons pourraient prendre en otage l'Europe? Ça a été assez terrifiant sur la communication. Et donc les Wallons ont dit, non, on ne signe pas en l'état. Donc ça a été pression sur pression, le Parlement Wallon a parlé de plusieurs ultimatums qui lui ont été posés, comme quoi s'il ne signait pas, il perdait certaines aides, il pouvait être, il pouvait être vraiment embêté. Donc ils ont obtenu une poignée d'avancées, et du jour au lendemain, ils ont dit, ben voilà, on signe. Donc on a été les premiers surpris, parce qu'ils étaient partis pour vraiment résister. Et apparemment, ils avaient eu des vrais compromis, et ils ont signé.
Est-ce que ces compromis, ces avancées sont réellement concrètes, ou est-ce qu'on est dans l'ordre du langage, la petite phrase qui fait plaisir, mais qui finalement n'a aucune portée juridique
voilà. On a mis un moment pour essayer de comprendre, mais en fait, non, c'est du saupoudrage. On a été un petit peu déçus. C'est qu'effectivement, il y a eu quelques avancées sur les tribunaux arbitraux privés, mais ils ne s'appliqueront pas. Alors, ces accords, on sait en particulier que même s'ils ne sont pas ratifiés, là ils sont signés, mais ils ne sont pas ratifiés. C'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que les pays disent, oui c'est bon, on est d'accord pour les confier au Parlement pour qu'ils les signent, donc soit par voie référendaire, soit par voie législative. Et une fois que les 38 parlements européens, pas simplement les nationaux mais aussi les régionaux, l'auront signé, à ce moment-là l'accord entrera en vigueur. Mais, chose très particulière dans ces accords économiques, il y a une application provisoire qui est en jeu, qui va se faire. C'est-à-dire que même s'il n'est pas signé, il s'applique quand même.
Il s'applique immédiatement.
Voilà, il va s'appliquer dès la signature, normalement au 1er janvier 2017. Vu que la signature est faite, il va s'appliquer très bientôt. Mais certains points ne seront pas appliqués, comme les très controversés tribunaux d'arbitraux privés. Et effectivement, les Wallons ont obtenu une poignée d'avancées sur ces tribunaux arbitraux. Mais dans le principe, ces tribunaux restent, donc sont toujours un énorme problème. Ils ont aussi obtenu des compensations, mais nationales. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce genre de traité, chaque pays peut rajouter une petite clause, ce qu'on appelle les clauses nationales, en disant, alors, on signe tout, mais pour notre pays, on voudrait telle exception. Alors, par exemple, l'exemple classique, c'est l'Allemagne, qui a imposé d'avoir une sortie possible du traité. C'est-à-dire que ces traités, normalement, il n'y a même pas de sortie possible.
Oui, donc on ne peut pas revenir en arrière.
Officiellement, on ne peut pas. Certains pays, alors il y en a trois en Europe, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, si je ne dis pas de bêtises, qui ont dit on veut quand même une clause pour pouvoir en sortir si ça ne nous plaît pas.
Mais pourquoi cette clause-là ne pourrait pas s'appliquer à tous les pays à partir du moment où elle s'applique à un ?
Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Les Belges ont obtenu une clause de sauvegarde sur leur agriculture aussi. Si ce traité est assez destructeur sur leur agriculture, ils auront le droit d'en sortir. Mais en fait, toutes les avancées qu'ont eu les Wallons, c'est surtout des avancées belges. Belges aux Belges. Ça ne compte pas pour nous. Et la France n'a pas demandé quoi que ce soit.
Il n'y a même pas la possibilité par itération de revenir une fois qu'un pays a obtenu quelque chose pour se poser la question de le généraliser à l'ensemble des pays.
Et non, même pas. Ces traités sont assez particuliers, ils sont négociés en secret. On vous donne un gros paquet en disant vous signez, c'est tout ou rien. Voilà. Ça fait partie du problème aussi sur ces traités.
Et là, comme on est aussi beaucoup dans des questions de termes, une application transitoire, mais transitoire qui dure, puisqu'il est supposé s'appliquer de manière permanente ensuite.
Tout à fait. Donc c'est un jeu transitoire permanent. Si on n'a pas prévu d'en sortir et qu'on va en sortir, ça peut être très compliqué. Ça peut se finir justement devant ces fameux tribunaux arbitraux privés. Bref, c'est très compliqué. Et effectivement, il y a beaucoup de pays qui ne jouent pas le jeu. Il y a beaucoup de pays qui, même si on est dans l'Union européenne, qui jouent aussi leur carte nationale. Par exemple, la Roumanie ne voulait pas signer ce traité, sauf s'ils avaient des visas pour leurs ressortissants pour les envoyer au Canada. Ils n'avaient strictement rien à faire du contenu. Tout ce qui les intéressait, c'est d'avoir un bon nombre de visas pour le Canada. Donc voilà, et après, il y a les intérêts nationaux aussi qui s'appliquent derrière.
Et la question, alors on parlait de la signature et ratification, donc il y a une différence.
Oui, parce
que
on
parlait du statut mixte du traité, donc est-ce que ça permet à certains de ne pas faire comme les autres?
Alors, le statut mixte du traité, effectivement. Alors, un statut, alors, quand le traité n'est pas mixte, c'est-à-dire qu'il il est du ressort de l'Union européenne dans 100% du traité, c'est-à-dire par exemple les traités économiques, l'Union européenne a tout pouvoir sur la partie économique. Donc, s'il signe un traité économique, c'est l'Europe qui décide, c'est l'Europe qui le signe, et il s'applique partout. Ça, c'est un traité classique. Les traités mixtes, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que l'économie, mais aussi d'autres volets. L'environnement, le social, le droit du travail, etc.
Et c'est le cas des traités dont on parle.
Alors, après une longue bataille, ils ont accepté que ces traités soient notés comme mixtes. Parce que, en fait, ça peut paraître bête, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'officiellement, si c'est économique, c'est l'Union européenne. Si c'est mixte, ça doit passer devant les parlements nationaux.
Ça veut dire que ça doit être voté par chaque
mais
pays.
Mais il n'y a pas de définition précise. C'est-à-dire que ils auraient pu décider que ce traité, finalement, n'était pas mixte. Mais devant le tollé citoyen, ils l'ont classé comme mixte. En fait, il n'y a pas d'obligation à le classer mixte. Ils l'ont fait pour apaiser les tensions. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, donc il a été signé par les pays, mais il doit être ratifié par les 38 parlements européens afin de pouvoir être validé, même si, encore une fois, il est d'application transitoire.
Donc, mais il s'applique quand même.
Mais il s'applique quand même. Voilà, c'est totalement fou, c'est totalement ubuesque. Mais c'est la difficulté de ces traités. C'est qu'en plus, en termes de loi, même de loi européenne, c'est très, très, très compliqué. Sachant qu'en plus, il y a des barrières locales. Par exemple, la Cour constitutionnelle allemande a donné l'autorisation au gouvernement allemand de signer le CETA, mais en mettant la réserve, en précisant que les tribunaux arbitraux privés sont inconstitutionnels pour l'Allemagne. Donc on ne sait absolument pas ce que ça va faire. Voilà, ces traités sont très compliqués. Les Belges avaient promis de saisir la Cour de justice européenne de façon à faire valider ou non par cette Cour de justice la légalité de ce traité. Finalement, ça ne se fera pas.
Ah oui, donc ça a été décidé, puis finalement...
Voilà, ça a été donné comme avancé, puis finalement, non, ils ne le feront pas. Donc voilà, c'est ce qui en rend en plus les choses très compliquées.
Et donc, si on passe au TAFTA, est-ce qu'on est dans la même configuration, en gros, avec un contenu similaire?
Alors, on est dans
et des mécanismes identiques.
Alors, on est dans un contenu qui est voisin, pas similaire, mais voisin. Il y a des choses en commun. C'est un traité mixte, lui aussi, qui va concerner l'économie, mais aussi l'environnement, les droits de douane, les normes sanitaires, etc. Donc ça, c'est un côté commun. Il y a des choses qui n'y sont pas. Il y a des dispositions très controversées d'ACTA, par exemple, qui sont revenues dans le CETA, qui ne sont pas dans le TAFTA. Donc il y a quand même quelques petites différences. Il y a bien sûr le point commun des tribunaux arbitraux.
Oui, on y reviendra peut-être plus
voilà,
ils
sont dans
là-dessus.
Les deux. Mmh. Et effectivement, par contre, celui-ci, encore une fois, il devrait être mixte, mais rien n'est décidé.
Et d'ailleurs, on en est où dans l'avancée des décisions
Alors, le TAFTA a du plomb dans l'aile. Ça, c'était... Alors, je sais pas
on
si
a
c'est...
entendu, en plus, du côté de la puissance dominante, les chefs d'État, que ce soit celui sortant ou l'entrant, qui disaient... qu'ils n'en voulaient pas. Est-ce que c'est vraiment les chefs d'État et le monde politique qui décident sur ce type de traité, ou plutôt le monde économique?
Alors, le monde économique, bien évidemment, des regroupements, des associations de multinationales qui ont créé ces traités et qui les ont vendus à leurs copains politiques. Mais c'est quand même, in fine, les hommes politiques qui décident. Ou du moins, parfois, ils pourraient aussi nous demander. Mais ça, c'est un autre problème. Donc oui, ils peuvent décider de se retirer ou de continuer les négociations sur ce traité. Donc officiellement, effectivement, le TAFTA a du plomb dans l'aile. Il était devenu tellement impopulaire, même aux États-Unis, que du côté des démocrates, les deux candidats, que ce soit Bernie Sanders ou Hillary Clinton, étaient opposés. Bernie Sanders depuis toujours, Hillary Clinton est convertie à l'opposition au TAFTA, tout comme Barack Obama, qui l'a négocié et qui finalement s'est dit finalement plutôt contre quand il a senti le vent tourner. Du côté républicain, c'était plus compliqué. Bon, finalement, c'est Trump qui l'a emporté. Il est officiellement opposé. Il a déclaré qu'il ne voulait pas le signer.
Pourtant, il a de nombreux amis parmi les investisseurs
bien
intéressés.
Évidemment, tout à fait. Donc, mais on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Il est tellement...
imprévisible.
Voilà. Donc, on ne sait absolument pas comment il fonctionne. De la même façon, il a dit non au traité transpacifique que les États-Unis avaient porté à bout de bras et avaient vraiment bataillé depuis des années pour le faire signer. Là, encore une fois, il était signé, mais non ratifié. Et après la signature, donc, Donald Trump a dit non, il ne sera pas appliqué, il ne sera pas ratifié. Ce qui a ravi d'ailleurs son homologue chinois, qui, dès le lendemain de cette annonce, a proposé un équivalent, mais mené par la Chine.
Et auquel les États-Unis auront du mal à se soustraire, ou devront renégocier.
Ils seront en dehors. Le traité transpacifique, les États-Unis l'ont fait aussi pour isoler économiquement la Chine. Et la Chine va bien en profiter pour se venger et isoler les États-Unis dans le Pacifique. Voilà, c'est aussi de la géopolitique, malheureusement.
Je vais vous proposer une petite pause musicale, avec un petit clin d'œil à la monnaie états-unienne.
Bien volontiers.
Merci.
Allez.
De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont la cervelle bat la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part. Ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le dieu dans son église, le dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, le soleil qui s'allume, c'est le dieu dollar. Il éclaire le monde de son feu criard, et les hommes à la ronde l'adorent sans retard. On ne perd pas le nord, vous pensez, juste le temps de se lancer, de s'installer, de récolter sa part. On joue, on gagne, on perd, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, bien riche, dollar. On met les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec la merde, dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise, et qu'on dépite dans chaque église, aux enchères comme une marchandise, à coups de dollar. Mais dans la ville ardente, sous un ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or. Autophono, radio, machine, truc chimique pour faire la cuisine. Chaque maison est une usine, un standard. À l'aube dans sa bagnole pourrie, on va vendre son épicerie. Et le soir on retrouve sa chérie, standard. Alors on fait tourner les disques, on s'abrutit sans danger puisqu'on est assuré qu'on ne te risque. Vénard, la vie qui tourne comme une roue vous éclabousse et vous secoue. Il aime vous rouler dans la boue, le dieu dollar. Quand la nuit sur la ville pose son manteau noir, dans le ciel immobile veille le dieu dollar. Il hante tous les rêves des fous. On vient marteau dans leur folie, les hommes n'ont plus qu'une seule envie, un suprême désir dans la vie, de l'or. S'il s'écoutait par tout le monde, on en sèmerait à la ronde, au fond de la terre profonde, encore. On en nourrirait sans relâche, les chèvres, les brebis, même les vaches, afin qu'au lieu de lait, elles crachent. De l'or partout, de l'or liquide, de l'or en gaz, de l'or solide, plein les cerveaux et plein les bides, encore, encore, encore. Mais sous un ciel de cendres,
c'était Dollar, chanté par Agnès Bill.
Et on revient, donc on parlait de dollar, on revient sur notre traité entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc on disait qu'il battait de l'aile, mais où en est-il dans les négociations? Est-ce qu'on est dans un traité quasiment bouclé, où il reste que quelques phrases à négocier, ou est-ce qu'on... un peu comme le CETA, ou est-ce qu'on a encore du travail
Alors, en fait, le TAFTA, il est très, 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 très loin d'être fini de négocier. En fait, il a énormément de retard. Il y a de nombreux points qui achoppent entre les États-Unis et l'Europe. Il y a des points sur lesquels aucun des deux ne veut lâcher. Et donc, pour l'instant, il n'est pas au point mort. Il continue à négocier, hein, malgré ce qu'a dit Matthias Fekl. Malgré ce qu'a dit le gouvernement, même si le traité a du plomb dans l'aile, début octobre, le nouveau round de négociation a eu lieu comme prévu.
Et ce round, ça se passe c'est dans quelles
c'est
instances
tous les trois mois. C'est tous les trois mois, alors, en alternance une fois aux États-Unis, une fois en Europe, en général dans des lieux bien sécurisés, bien discrets, et c'est donc les négociateurs qui ont été choisis par l'Union européenne et les États-Unis qui négocient ça en très.
Mais il n'y a pas de publication des résultats à la fin de chaque round.
Bien évidemment, l'opacité est complète, il est absolument impossible de rentrer. C'est quasiment de la blague maintenant quand on décrit la façon dont on peut avoir accès aux documents, dont les hommes politiques peuvent avoir accès aux documents.
Parce que les hommes politiques, justement, les députés européens, ils sont dans ces négociations.
Alors non, ils ne sont pas dans ces négociations, ce sont des représentants. Il y a deux représentants par nation et plus un groupe pour les États-Unis est terminé. C'est juste des personnes, des technocrates sélectionnés pour leurs compétences qui sont capables de négocier. C'est absolument pas les députés européens. Donc officiellement, les députés européens, ils ont la possibilité d'aller consulter ce qui s'est dit. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de consulter les documents qui datent des dernières négociations, mais celles il y a X mois en arrière. Ils doivent le faire dans une salle sécurisée, sans ordinateur, sans appareil photo, sans pouvoir prendre des notes. Le tout est écrit en anglais, en jargon technique. Bref, c'est totalement hermétique au commun des mortels. Et c'est fait exprès.
Et sur la question du jargon, justement, on en parlait un peu tout à l'heure en disant ce champ lexical. Déjà, il n'est pas forcément maîtrisé par ceux qui vont voter, par les députés. Tu disais, c'est des technocrates, donc c'est, voilà, c'est...
Le vocabulaire est technique, juridique. Alors, officiellement, dès que l'Union européenne fait quelque chose, elle doit le traduire dans toutes les langues de l'Union et le diffuser auprès de tout le monde. Bon, tous ceux qui ont mis le nez sur le site de l'Union européenne savent bien que la plupart des questions qu'on nous pose ou des documents sont là uniquement en anglais. Donc déjà, ça pose une difficulté. On n'est pas tous bilingues, c'est pas facile. Le jargon est juridique, technique, parfois tout mélangé. Et en plus, eux, de leur côté, en plus, ils ont une communication très rodée. Donc oui, il y a énormément d'obstacles à la compréhension et à la diffusion des informations.
Donc il y a aussi le décryptage qui peut prendre...
Très longtemps.
Qui peut prendre du temps.
Bien sûr.
Est toujours en réaction, donc on a toujours un train de retard.
On a forcément un
plusieurs,
train de retard.
Plusieurs, si on n'a consulté que les documents du round précédent.
C'est ça. Donc, non seulement nos hommes politiques ont du retard, mais ont du retard ceux qui s'y intéressent. Autant dire que tous les députés européens ou tous les députés français n'ont pas été consultés les documents ou n'en ont strictement rien à faire du TAFTA ou du CETA. Là, encore une fois, il y a beaucoup d'idéologie. Certains ne voient pas le mal, ne veulent pas le voir, donc ils ne veulent pas décrypter. Pour eux, ils ne peuvent ressortir que du bien de ces traités. Donc, c'est toujours un peu difficile d'aller les pousser en leur disant « Si, si, regardez, il y a marqué ça, c'est assez dangereux ».
Comme ce qu'on disait en début d'émission, ils préfèrent parler de choses positives qu'ils font
bien sûr.
Qu'être dans une lutte, même si elle est aussi partagée
bien sûr. C'est
par
toujours,
les citoyens.
C'est toujours dur, comme on disait, d'être dans la réaction. Ça nous oblige déjà, on a du retard. En plus, on est obligé de lutter contre une communication bien établie. On est obligé de lutter contre des mots qui sont jolis. Ils nous parlent de libre-échange, d'un super joli traité, le CETA, avec des gentils Canadiens. On a quand même vu la ministre du commerce canadien débarquer en Europe, pleurer devant les caméras et nous dire « Pourquoi vous voulez pas signer avec nous, on est gentil et patient. » C'est juste hallucinant. On se bat vraiment aussi contre cette communication qui est terrible. Nous, on est contre. Alors forcément, si on est contre, c'est qu'on est méchant. On est contre le libre-échange qui peut être contre quelque chose de libre. Enfin voilà, c'est super difficile de lutter en termes de communication. Ça rajoute à la difficulté de notre combat informatif.
Et ça pose vraiment la question de la portée démocratique.
Ah ben totalement. Cette communication, elle empêche tout débat démocratique. C'est un des problèmes.
Et par contre, dans le cadre des négociations, est-ce que les investisseurs ou justement les entreprises sont, elles, plus au courant que nos élus
Eh bien, pas tant que ça, en fait. Mis à part la poignée de multinationales réunis en associations qui ont décidé, enfin qui ont créé ces traités, qui ont créé les conditions pour les lancer. Mis à part cette poignée de grandes entreprises qui les ont lancées, ils ne sont pas forcément tenus au courant. Alors certainement, certains de leurs lobbyistes savent où ça en est, mais pas forcément dans les détails. Et surtout, bien évidemment, toutes les PME, PMI qu'on nous vend régulièrement, eux, ne sont absolument pas au courant. Donc non, le monde économique n'est pas forcément beaucoup plus informé que les autres. Un peu plus, mais seulement une poignée d'entreprises.
Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui roule sans...
Mais c'est ça, tout roule sans que personne ne puisse... Enfin, c'est difficile d'essayer de mettre un bâton dans les roues. C'est vraiment difficile. tout est fait pour que ça roule. Typiquement, le CETA devait passer devant diverses commissions, la commission économique, la commission environnement, la commission droit du travail, pour voir si ce traité était compatible avec les valeurs de l'Union européenne. Comme, au terme de droit du travail et d'environnement, ce traité risquait d'être jugé négativement, on a retiré le travail à ces deux commissions. Mais tout va bien, sans problème. Voilà, ça fait partie des magouilles internes et des coups de force actuellement qu'on constate pour les faire passer. Et c'est pareil, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? En ce moment, on a un peu de mal, j'avoue.
Mais est-ce qu'on a quand même, par rapport à vos décryptages, des idées quand même sur des impacts concrets ? Donc, je pense par exemple à la question comme l'agriculture ou l'alimentation ou la question de la santé.
Alors, sur l'agriculture, bien évidemment, très simplement, l'agriculture est comprise dans le CETA. Et effectivement, il y aura une augmentation du quota de viande canadienne qui pourra être importée. Alors certains nous disent, mais c'est pas grave, c'est 0,3% de la viande européenne. 0,3%, ça représente combien d'agriculteurs qui vont se retrouver à la porte ?
Et est-ce qu'on a aussi des garanties en matière d'OGM ?
Ah non, justement, c'est bien le problème. C'est qu'encore une fois, non seulement ces traités sont là pour éliminer les droits de douane, qui sont quasiment proches de zéro, sauf justement dans certains domaines agricoles, comme la viande. Et là, les agriculteurs vont vraiment souffrir. Mais ces traités comportent aussi des chapitres sur les normes environnementales, les normes sanitaires. Et donc là, effectivement, alors on se dit que si tout le monde était raisonnable, ça serait l'occasion de niveler par le haut. Mais on n'a jamais vu un traité qui a nivelé par le haut, on n'a que des traités qui nivellent par le bas. Donc on est effectivement inquiet. Alors le côté positif, ils nous disent, mais regardez, grâce au CETA, certes, nos appellations géographiques protégées, nos AOP, nos IGP, vont être protégées. Non, elles ne vont pas être protégées. 10% d'entre elles vont être protégées et 90% vont être sacrifiées.
C'est parce qu'ils vont choisir certaines liste.
C'est déjà choisi. Sur les à peu près 1500 appellations d'origine contrôlée que nous avons en Europe, 145 seront protégées et les Canadiens n'auront plus le droit de faire comme ils font actuellement, à savoir de faire des contrefaçons. Ils pourront cette fois-ci être condamnés s'ils en font. Mais quid des 90 autres, et ben là, ils pourront continuer.
Et en dehors de la question des normes, ça pose aussi la question aussi... On est de plus en plus sensible aux circuits courts. Est-ce que ça veut dire aussi que même une commune pour sa cantine se retrouvera obligée d'acheter de la viande canadienne alors qu'elle aurait voulu développer...
Officiellement, personne ne sera obligé d'acheter. Mais c'est toujours le même problème. Quand vous allez sur l'étal de votre boucher, que vous avez une viande très chère, une viande pas chère, vous prenez laquelle ? Si vous avez un bon boulot, que vous êtes sensibilisé à l'environnement, vous prenez la plus chère, vous savez d'où elle vient. Combien vont pouvoir le faire ce choix ? Combien vont se rabattre sur la viande canadienne parce qu'elle est moins chère ? Même si elle est bourrée justement d'antibiotiques, et ça c'est un gros problème, nourrie aux OGM, etc.
Oui, ce qui est de... Voilà. Et c'est difficile de lutter contre ça même, je pense par exemple à une commune sur la cantine, dans des périodes d'austérité, exactement. Donc avec des budgets qui baissent, où finalement ça, on devrait être heureux de manger moins cher.
C'est ça, ils seront très contents de manger moins cher, de manger de la viande pour pas cher, après la qualité de leur viande. Encore une fois, on a déjà eu des problèmes avec la viande canadienne, c'est pas une nouveauté. La viande canadienne est bourrée alors déjà elle est nourrie aux OGM, elle est bourrée d'antibiotiques. C'est un gros problème par exemple pour la viande de cheval, qui majoritairement en France vient du Canada, donc on a déjà des problèmes avec ça, mais donc ça va les amplifier effectivement. Même si effectivement ça mettra pas au chômage des millions de paysans, mais probablement quelques centaines en France. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Je suis pas convaincu. Surtout pour de la viande qui sera pas forcément d'excellente qualité.
Et je pensais aussi à la question du lien avec d'autres accords internationaux, tels que l'accord de Paris, suite à la COP21, sur les questions donc, environnementales et changements climatiques. Est-ce qu'il y a compatibilité ou est-ce que le traité va s'asseoir dessus ?
Il y a une totale incompatibilité entre le TAFTA, le CETA et bien évidemment l'accord de Paris négocié pendant la COP21. C'est Nicolas Hulot qui en parlait il n'y a pas très longtemps en disant que c'est totalement inadmissible. C'est à l'opposé des engagements qu'ont pris la France. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir qu'on prend des engagements d'un côté, mais dès que ces traités arrivent, on oublie totalement nos engagements. Ce qui est un peu dommage. C'est vrai que ces engagements n'étaient pas contraignants, mais de là à faire exactement l'inverse, c'est toujours assez, assez désagréable. Donc oui, bien sûr, c'est totalement à l'opposé de l'accord de Paris. il va y avoir plus d'échanges au milieu de l'Atlantique. Donc forcément, on va se retrouver à manger des pommes canadiennes, les Canadiens à manger des pommes françaises, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'ils n'ont pas des pommes ? Est-ce qu'on n'en a pas ? Oui, pourquoi se les échanger au milieu de l'Atlantique dans des grands navires ? Voilà, ça fait partie de ces...
Et là encore, on parlait d'accords internationaux, mais si on passe aux lois nationales, à un moment, on pourrait même se demander pourquoi on fait des lois pour améliorer les questions d'agriculture, de santé alimentaire et d'environnement, si de toute façon, en face...
Alors, ça va même plus loin que ça. Dans ces accords, il est prévu ce qu'on appelle un organe de coopération réglementaire. Alors, sous ce nom très très barbare, se cache une petite chose assez rigolote. Ça part d'un principe très simple, c'est qu'à partir du moment où on a signé un accord sur des normes, si jamais un pays veut changer une norme, veut faire une loi, il serait bien que toutes les parties soient au courant si la norme est commune. Donc, en gros, les Canadiens, les Européens, les multinationales vont se mettre autour d'une table. Chaque fois qu'il y a une loi, ils vont négocier cette loi.
Les lois nationales ne seront plus souveraines.
Ne seront plus souveraines. Surtout, elles risquent très fortement de ne pas pouvoir se faire. C'est-à-dire qu'il va falloir un temps absolument hallucinant pour pouvoir rédiger une seule loi. Il va falloir que tout le monde soit d'accord. Il va falloir que toutes les entreprises soient d'accord. Il ne faut pas que ça attaque leur profit. C'est de la folie, cet organe de coopération réglementaire. C'est-à-dire qu'en gros, les lois seront faites par les entreprises, plus par l'État. Ça, c'est absolument terrifiant.
Donc c'est encore pire en termes d'impact sur le futur. C'est-à-dire que c'est presque un gel...
Ah, c'est un gel législatif.
Un gel législatif en matière, justement, en plus d'amélioration.
Tout à fait. En plus des tribunaux arbitraux qui provoquent déjà une forme de gel législatif, il y a l'organe de coopération réglementaire qui en rajoute une couche, qui est même la couche principale. Mais qui est toujours dur à expliquer, donc c'est pas forcément là-dessus, quand on fait une réunion, c'est pas forcément ce qu'on met en avant le plus, mais c'est vraiment un très gros problème.
Et je propose qu'on passe aux tribunaux.
Les fameux tribunaux
après une pause musicale.
Une petite pause musicale ? D'accord. Alors j'ai choisi une chanson dont le titre fait un petit clin d'œil à notre ville lyonnaise en ce soir de 8 décembre. Non, c'est pas une chanson sur la Vierge Marie.
Dieu merci.
Dieu merci.
Merci.
Et donc c'est une appellation d'origine protégée.
Yes.
On sait bien que tout ça c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas qu'on en rigole. Gole, 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 gole. De cette mascarade empaquetée que nous livre la bonne société. Le reste n'est qu'affaire de branquignoles. Gnole, 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 gnole. Y'a toujours eu les uns et puis les autres. Y'aura toujours du pain pas pour les autres. La miche bien dorée, moi j'en raffole. Folle, 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 folle. Deux, trois gouttes bien après, si flottante, si flottante. Tu rentres du cabaret, chancelante, chancelante. Tu sais bien que tout ça c'est de la bricole. Du précaire emballé, c'est pesé. Les éclats d'une vie qu'on rafistole. Tolle, 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 tolle. On avait pourtant pressenti la chose. La chose tant pressant pour Tiona. Fait livrer tant de chair à la casserole. Roll, 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 roll. S'engagea sans yeux ni bras. On rampera même s'il le faudra. Mais on ne loupera pas la farandole. Dans le dol, dans le dol, dans le dol. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéales. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéales. Que tout ça c'est à l'école. Quand tombent les quatre vérités. La vérité de toi que tu racoles. Colle, 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 colle. Quand 2 x 3 et 4 + 2 ne font pas 6. Et qu'on voyage les poches crevées.
Vous ne vous trompez pas, elle est bien folle. Folle, 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 folle. Chevauchant des chevals jamais dressés, puissante à la face du monde entier. Elle buissonne la ronde et puis s'envole. Vole, vole. À petit pas va la saison, à part du temps passé, qu'est-ce qu'il te reste? Un sentiment mal accroché. Hier c'était les communistes, demain j'ouvre le magasin. Car j'ai dans mon placard un gros pactole, d'histoire qu'il est temps de débroussailler, avant qu'il ne m'affuble en camisole. Zole, 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 zole. Dans cette bouillabaisse faisandée, on s'est mis dans une foutue purée. Le nez pas dans le vent, mais dans la colle. Colle, 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 colle. Alors on s'invita dans l'au-delà. On rêvera même s'il ne faut pas. Mais on ne loupera pas la farandole. Dans le dol, dans le dol. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéales. Non, ne laissons pas les chacals brouter nos idéales. On sait bien que tout ça c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas qu'on en rigole. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Mais ne laissons pas les chacals brouter nos idéales.
C'était les Tétraides, Guignol.
Et nous revenons donc sur nos traités transatlantiques. Donc on venait de parler de l'organe de coopération réglementaire, encore des gros mots,
qui cachent
bien leur... Donc qui ferait que des futures lois nationales devraient passer par une instance où même les entreprises pourraient donner leur
avis, bien
leur
évidemment.
Avis, voire et leur
donc,
veto.
Et en tout cas, les menacer de les poursuivre devant des tribunaux arbitraux privés.
Et voilà, et donc on en arrive à ces fameux tribunaux arbitraux privés, donc qui serait une possibilité unilatérale pour les entreprises d'attaquer les États.
Si exactement, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça, c'est unilatéral, ce sont les entreprises qui pourraient porter plainte contre les États et pas l'inverse. Mais pas n'importe quelle entreprise, hein. Même si ces traités nous sont vendus par nos hommes politiques comme des traités qui favorisent les PME-PMI, ils en sont exclus. Seules des entreprises qui ont des filiales dans les différents pays peuvent porter plainte. Donc ça limite encore plus, c'est vraiment le pouvoir aux multinationales dans son intégralité.
Ce qui veut dire qu'en attendant que le traité se prépare, elles peuvent commencer à installer les filiales,
Alors a priori, elles sont déjà là. Si elles n'ont pas attendu les traités, elles sont déjà là, c'est juste que ça leur donnera plus de pouvoir. Mais oui, donc ces traités sont... Alors, comme je te disais tout à l'heure, l'organe de coopération réglementaire est, à mon avis, probablement encore plus dangereux, vu qu'il donne le pouvoir législatif aux multinationales. Mais oui, ces tribunaux arbitraux privés sont un véritable scandale. Et malheureusement, l'avantage, c'est qu'effectivement, ça fait bondir les gens. Mais ça existe depuis très longtemps et c'est parfois encore difficile de lutter contre.
Donc ça existe, donc on peut déjà... aussi donner des exemples de l'impact qu'ils peuvent avoir ou de la puissance.
Ça existe depuis exactement 1959. C'est quand même pas récent. Sauf que, à l'époque, ça a été fait quand, après la Deuxième Guerre mondiale, après la décolonisation, quand des pays allaient investir dans des pays émergents. Le premier a eu lieu entre l'Allemagne de l'Ouest et le Pakistan. Le Pakistan n'était pas très stable et donc l'Allemagne a voulu sécuriser ses investissements en imposant ce tribunal arbitral privé au cas où il soit exproprié. Finalement, tout s'est très bien passé et pendant quasiment 30 ans, il n'y a pas eu de cas. Il n'y a jamais eu de plainte. Et depuis les années 80, ça a commencé à en voir apparaître. Mais en fait, c'est surtout depuis les années 2000 où là, ça a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près une douzaine de plaintes entre 1980 et l'an 2000. Et par contre, depuis l'an 2000, on a près de 700 plaintes qui ont été posées. C'est-à-dire qu'en fait, les avocats d'affaires ont changé de méthode. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre que les entreprises aient des problèmes, ils vont eux-mêmes démarcher les entreprises en leur disant, voilà l'argent que vous pourrez gagner si vous attaquiez tel État en vertu de tel tribunal arbitral qui est présent dans tel traité de libre-échange.
Donc on disait bien, c'est des tribunaux privés. Donc en fait, c'est plus ils travailleront, ces avocats privés, plus ils auront de l'argent. Donc leur but, c'est quand même d'aller chercher les problèmes.
Avant, ils ne cherchaient pas les problèmes, ils étaient là pour les résoudre. Et effectivement, il y a eu un vrai changement de mentalité chez ces avocats d'affaires. Aujourd'hui, ils vont chercher les entreprises pour les obliger, pour les pousser à porter plainte contre les États et récupérer l'argent public.
Et quel type de plainte? J'imagine que ce n'est pas seulement un vilain État qui veut exproprier une entreprise.
Typiquement, alors dans les exemples qu'on cite beaucoup, il y a actuellement, par exemple, il y a une compagnie canadienne, justement, qui a voulu créer la plus grande mine d'or à ciel ouvert en Roumanie. Donc, une mine d'or, c'est très polluant, on utilise du cyanure pour extraire l'or, c'est
quand même... C'est un truc, on ne peut plus boire d'eau potable à des kilomètres à la ronde.
C'est un petit peu compliqué, c'est pas, disons, les choses les plus légères qui soient. Bien sûr, la population roumaine s'y opposait. Elle a fait pression sur ses hommes politiques. Les hommes politiques ont dit, finalement, vous ne pouvez pas. Et l'entreprise a porté plainte. Et donc, elle a saisi un tribunal arbitral, vu qu'en vertu d'un accord de libre-échange signé par la Roumanie et le Canada, et leur demande 4 milliards de dollars de dommages et intérêts. Alors, 4 milliards de dollars américains de dommages et intérêts, c'est 3 fois le budget de la santé roumaine. Voilà. Et en vertu des profits qui ne sont pas gagnés.
Oui, donc en plus, c'est le manque à gagner. C'est donc, c'est même pas une perte ou un dédommagement.
Non, c'est pas une perte. Ils ont investi zéro. Mais il existe 4 milliards au nom de ce qu'ils auraient dû gagner.
Donc, en fait, ça fait gagner de l'argent aux avocats. Et ça fait aussi gagner beaucoup d'argent aux entreprises.
Exactement. C'est comment prendre l'argent directement dans la poche de l'État. Un des autres exemples assez...
peut déjà envisager même que des entreprises fassent des projets d'investissement en envisageant déjà le fait qu'elles puissent gagner au moins le dédommagement de ne pas réussir à les faire.
Je ne sais pas si elles peuvent compter comme ça, mais je suis sûr qu'il y a des gens assez retors pour y penser, oui.
C'est ce que je viens de dire.
Voilà, donc je suis sûr qu'il y a des gens assez retors pour y penser, même si ce n'est pas théoriquement ces tribunaux n'ont jamais augmenté l'investissement dans un pays. Qu'il soit présent ou pas présent, il n'y a pas de différence sur l'investissement, malgré ce que nous vend l'Union européenne. Ça ne fait pas augmenter l'investissement des entreprises, ça ne les sécurise pas plus que ça, parce qu'il faut quand même être un petit peu de mauvaise foi pour penser que la justice publique en Europe est si mauvaise, à ce point mauvaise qu'ils soient obligés de mettre des tribunaux d'arbitraux privés pour protéger les entreprises. Donc non, c'est de la mauvaise foi.
En tout cas, ça veut dire que les entreprises, elles ne prennent pratiquement aucun risque. Valorise toujours le risque de l'entrepreneuriat, et là, en fait, c'est sans risque.
En fait, l'entreprise, de plus en plus, et c'est le problème de la financiarisation de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, elle aimerait assurer des rentes. Et ces traités sont aussi là pour assurer des rentes aux entreprises et à certaines nations. Donc oui, on est très très loin de la philosophie de l'entreprise telle qu'elle nous est vendue par le rêve américain. On en est très loin.
On évoquait le côté positif dont on nous présentait certaines choses et le côté négatif qu'on pouvait y trouver dans la lutte, et on est vraiment là-dedans.
Exactement. Donc voilà, donc pour ceux qui se souviennent, les tribunaux arbitraux privés, leur côté un petit peu injuste, c'est l'affaire Tapie, hein, les 50 millions d'euros de préjudice moral pour M. Tapie, waouh, et les 400 millions de remboursement aux frais de la princesse, ça fait bizarre. Eh bien c'est ça, un tribunal d'arbitral privé, les copains vont décider si leur pote, il va toucher beaucoup d'argent ou pas. Bizarrement, en général, il en gagne beaucoup, c'est de l'argent public.
Et ces tribunaux, donc ils sont, enfin, c'est pas n'importe quel avocat, il y a quand même des gens qui sont désignés. Est-ce qu'il y a, comme on pourrait imaginer en n'importe quel tribunal, une déontologie, même, ou des règles?
Alors, jusqu'aux années 80, ou jusqu'au début des années 2000, j'aurais bien dit oui, parce que justement, il y a eu très peu de cas, et les avocats qui étaient saisis n'étaient saisis qu'en réaction face à des vrais dommages infligés à des entreprises. Mais depuis que ce sont eux-mêmes les avocats qui vont chasser les entreprises pour qu'elles attaquent les États, on ne peut plus parler de déontologie, là.
Ils ne sont pas plafonnés, par exemple, parce qu'à un moment... Alors qu'ils sont jugés partis.
Ils sont jugés partis, bien sûr.
Ce qui est absolument interdit, j'imagine, dans n'importe quel tribunal tel qu'on l'envisage dans sa définition primaire.
Là, le conflit d'intérêts n'est pas non seul le conflit d'intérêts, c'est la règle. Donc c'est assez terrifiant. Et oui, il y a toutes sortes de cas. Si vous voulez des cas, on en a listé de très nombreux, mais les cas sont tous à tomber par terre. Tellement c'est juste hallucinant. Des entreprises qui portent plainte contre l'augmentation du salaire minimum, des entreprises qui portent plainte contre des réglementations environnementales parce qu'ils veulent construire une usine à charbon, enfin, ça va très très loin. Et les plaintes se chiffrent en milliards, et si jamais la plainte n'aboutit pas, l'État a quand même payé des frais d'avocat très très chers. Donc de toute façon, pour l'État, c'est une perte. Mais bien souvent, pire que ça, c'est-à-dire que non seulement même si l'entreprise ne gagne pas, il y a souvent un accord à l'amiable. Ça a été le cas pour l'usine à charbon en Allemagne. L'accord à l'amiable, c'est que l'entreprise Vattenfall, l'entreprise suédoise, a construit sa centrale à charbon sans respecter les normes environnementales parce que l'Allemagne a éliminé sa loi environnementale.
Suite
à la plainte devant un tribunal arbitral.
C'est-à-dire qu'ils n'ont
pas eu 2 milliards de compensation, je crois que c'était 1,5 milliard qu'ils demandaient. Mais pour éviter ces compensations, l'Allemagne a retiré sa loi. Et c'est ce qu'on appelle aussi donc l'effet de gel législatif.
Donc là, ça a les mêmes effets de l'organe dont on parlait tout à l'heure. Donc on n'ose plus faire une loi qui pourrait nous coûter très cher.
Tout à fait.
Et coûter cher aux contribuables.
Exactement. La Nouvelle-Zélande a attendu jusqu'à il y a très peu pour faire sa loi anti-tabac. Elle voulait imposer le paquet neutre, comme ça sera le cas en France en 2017. C'était le cas en Australie. Et Philip Morris, au nom a délocalisé sa filiale des États-Unis à Singapour et a utilisé l'accord de libre-échange Australie-Singapour pour attaquer le gouvernement australien contre le paquet neutre et demander, je ne sais plus, je crois, 1,5 milliard ou 2 milliards de dommages et intérêts. Et donc, la Nouvelle-Zélande, effrayée par ces procès, a préféré ne pas passer sa loi.
Donc, si on pourrait prendre l'exemple, par exemple, d'un médicament, donc un pays a pu interdire parce qu'il s'avérait dangereux, qu'un autre pays voudrait interdire, mais n'oserait pas parce que le laboratoire pourrait l'attaquer.
Exactement. Tout à fait.
Ou un déremboursement de produits,
un déremboursement
de médicaments.
Il y a déjà eu des cas sur des assurances, justement, dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est ont beaucoup souffert de ces tribunaux arbitraux. Donc oui, tout est imaginable. À partir du moment où ils ne gagnent pas l'argent qu'ils voulaient, tout est imaginable.
Et donc c'est dans le CETA, il y a ce type.
Alors c'est dans le TAFTA, c'est dans le CETA, c'est dans plus de 3000 accords dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait ils le mettent systématiquement. On ne le sait pas, la plupart d'entre nous ne sommes pas des experts en économie, on ne savait pas du tout que ça existait. Mais voilà, ça existe depuis 1959 et c'est présent dans plus de 3000 accords au niveau international. Et
j'imagine que le périmètre de ce qu'on peut attaquer n'est pas encore très circonscrit, c'est-à-dire qu'on pourra inventer des nouvelles plaintes ou...
Ce qui est génial dans ces traités, c'est que tout est flou. Toutes les phrases, même pour nous protéger, sont floues. C'est-à-dire qu'on peut tout interpréter comme on veut. Et donc, forcément, le périmètre des plaintes possibles dans les tribunaux arbitraux sont très, 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 très larges. Ça fait partie de leur danger premier.
Et donc, on a évoqué beaucoup de dangers. On a quand même brossé un paysage assez noir. Donc, est-ce que tout est perdu? On disait quand même que le TAFTA avait du plomb dans l'aile.
Voilà.
On avait vu quand même des chefs d'État... se mettre en retrait, reculer. Donc ça veut dire aussi qu'on peut faire quelque chose. On pense, nous aussi, on a des élections.
Bien sûr.
Bientôt.
On a toujours un pouvoir. Il faut garder espoir. Il n'y a pas de souci. On a repoussé AMI, on a repoussé ACTA. Le TAFTA est en train de mourir sous nos yeux. Ça serait bien qu'il meure définitivement. Mais voilà. Le CETA va être très compliqué à ratifier. Il prévoit quand même qu'il ne sera pas ratifié et appliqué totalement avant 2020. C'est-à-dire qu'il se donne quand même presque 7 ans. Entre la première signature et l'application. Donc on a du temps encore. Là, on n'est qu'en 2016. On a encore au moins 3 ans pour se battre contre le CETA. Donc non. On a du pouvoir. Les hommes politiques, ils sentent le vent tourner. Là, s'il y en a autant qui actuellement se sont opposés au TAFTA, c'est aussi parce qu'on a bougé, parce que les lignes ont changé, parce qu'on les a fait prendre... Alors, il y en a certains qui ont pris conscience des dangers, qui ne le savaient pas avant, qui ont changé d'avis.
Mais on a dit que c'était quand même difficile. Un élu n'est pas omniscient, il n'est pas spécialiste en économie.
Et
c'est aussi bien qu'il y ait des décrypteurs qui...
C'est ça. Donc il y a des hommes politiques qui ont joué le jeu, qui ont vu nos décryptages et qui ont fait « Ok, d'accord, je comprends ». Après, il y en a aussi qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont vu nos décryptages, ils ont dit « Oh, ça c'est ok, c'est super dangereux, on est avec vous ». Et puis qui ont reçu les consignes du parti « Bon, ben, finalement, je suis pour ». Voilà. Donc on en a vu aussi changer d'avis dans les deux sens. Mais oui, ils ont toujours peur des élections. Donc, à nous de leur rappeler que nous sommes opposés à ces traités avant les élections. Donc, effectivement, on peut encore bouger, on peut les interpeller.
Et le collectif a prévu d'ailleurs justement d'être présent bien sûr, pendant la campagne.
On va essayer de faire en sorte que ces traités soient un des sujets de la campagne de 2017. On avait un peu bougé pour la dernière campagne européenne. Bon, malheureusement, c'est les européennes, donc ça a un faible écho. C'est dommage, mais on a eu un petit succès. Certains partis s'en sont emparés tout de suite. Pour les régionales, malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas passé, qui n'était pas à l'ordre du jour. On va faire en sorte qu'il soit là pour les présidentielles.
Et donc, ce sera des conférences
On va continuer à donner de l'information et on va essayer de faire quelques actions visuelles, comme on a déjà pu faire ces dernières années.
De quel type, par exemple?
Il y en a certaines, je ne peux pas le dire parce que ce n'était pas officiel ni légal ce qu'on a fait. Mais sinon, on va essayer effectivement pour une fois d'investir un peu plus la rue, ce qui n'est pas trop notre habitude. Mais on va essayer de le faire, histoire de rappeler aux gens que ces traités sont toujours là. Et que nos hommes politiques, on attend d'eux qu'ils nous donnent des réponses concrètes là-dessus.
Et vous êtes aussi un collectif ouvert, donc on
bien
peut,
évidemment.
On peut rejoindre.
Ben moi, je vis tout le monde à nous rejoindre. Nous avons besoin de vos cerveaux, de vos bras, de vos jambes. Nous avons toujours besoin d'aide pour nos actions et pour pouvoir, évidemment, apporter la bonne parole.
Et je crois avoir vu sur votre site qu'il y a également des actions de type pétition ou un envoi aux eurodéputés, enfin pour leur demander de se positionner par exemple.
Tout à fait. Grâce à ATTAC, on a la possibilité sur le site d'ATTAC ou sur le nôtre de directement interpeller nos élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, ou nos élus européens pour leur envoyer soit un mail type, soit une vraie lettre. On a leurs adresses. On peut donc les interpeller à titre individuel, on peut signer la pétition européenne que nous faisons toujours circuler, on en est à plus de 3 500 000 signatures.
Donc ce n'est pas uniquement les eurodéputés, les élus locaux aussi ont...
À un moment ou un autre, le CETA il va passer devant les parlements. Donc à un moment ou un autre, nos élus nationaux vont devoir se prononcer sur ce CETA. Je doute, tout le monde doute qu'ils le fassent passer par voie référendaire, ça nous ferait plaisir, mais on n'y croit pas. Donc voilà, donc il va falloir aussi mettre la pression sur les élus nationaux et donc aussi sur les élus locaux, ne serait-ce que pour leur expliquer ce que c'est et qu'eux-mêmes puissent faire remonter par leurs canaux le problème de ces traités.
Oui, parce que comme on disait, il y a quand même il y a des impacts locaux, l'agriculture, je crois qu'aussi sur les marchés publics.
Alors ça sera pour plus tard. Pour l'instant, les marchés publics sont peu impactés par le CETA et le TAFTA. Le TISA, ça sera autre chose. Mais ça, c'est-à-dire qu'en plus, mauvaise nouvelle, ce n'est que le début, c'est une vraie offensive, c'est-à-dire que les précédents traités ultralibéraux comme ceci...
Et donc le TISA, c'est aussi un traité d'investissement,
oui,
c'est entre
ce sera,
des pays
ce sera entre les pays de l'OCDE et l'Union européenne. Non, je dis une bêtise, pardon, je reprends, ce sera... 28 membres de l'OCDE, si je ne dis pas de bêtises, et ça portera effectivement sur la privatisation de la majorité de nos services.
Des services publics.
Oui, bien sûr.
Et donc là, ça concerne tout le monde.
Ça concernera tout le monde aussi. C'est fait partie de cette offensive ultralibérale, thatcherienne, avec 30 ans de retard, qui déferle sur l'Europe depuis pas mal d'années. Et donc oui, là, en ce moment, en plus, c'est ça qui est assez frustrant, c'est que même quand on gagne contre un traité, il y en a toujours un derrière. Donc comme on disait tout à l'heure, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir attaquer à la source.
Et ce TISA, il est déjà...
Alors, il est en cours de négociation, il est au début de sa négociation. On a très peu d'informations et je ne voudrais pas dire de bêtises non plus. Donc, nous, on n'en a encore qu'au tout début de l'information sur celui-ci.
En tout cas, c'est encore du pain sur la planche.
Oui, malheureusement, c'est ça, c'est sans fin. Donc, il faut avoir un peu de salive, il faut avoir un peu de courage parce que c'est un combat de longue haleine.
Et donc, on peut avoir plus d'infos sur le site. Donc
sur notre site, Stop TAFTA Lyon. Vous tapez Stop TAFTA Lyon dans n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur notre site. Sinon, il y a un collectif national, Stop TAFTA, qui a un très bon site aussi, qui informe très bien. Et sinon, on a toujours les relais d'ATTAC. Donc, sur les sites d'ATTAC, vous trouverez énormément d'informations.
Et notamment, c'est les lieux des conférences.
Exactement. Vous avez aussi un excellent site qui est celui de la Quadrature du Net, où ils ont fait un wiki spécial TAFTA. Donc vous avez énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment très très bien.
C'est des adresses d'ailleurs qu'on rajoutera dans le blog de l'émission, en plus de l'enregistrement de l'émission que vous pourrez réécouter ou faire réécouter. Je te remercie.
Merci à vous.
On aura certainement l'occasion d'en reparler, notamment par
malheureusement,
la campagne.
Malheureusement, oui. Donc, rendez-vous pour la campagne présidentielle.
Et on vous laisse avec le Canu Info.
À l'année prochaine.
Oui.